Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Service.
Professeur Elika, vous étiez en train de parler de la langue. Il y a plusieurs langues qui étaient parlées dans notre pays, mais il faut reconnaître que les Congolais ont fourni des gros efforts, beaucoup d'efforts pour apprendre la langue française plutôt que les flamands, que les belges ne nous ont pas tellement, qui nous ont pas appris.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, la langue française parlée au Congo est une très belle langue et nous avons des écrivains, des romanciers, des penseurs et des poètes et des poétesses reconnus dans ce domaine. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait qu'un certain nombre de Congolais réapprennent le flamand de haut niveau parce que beaucoup de choses qui concernent le Congo, notre pays, ont été écrites en flamand. Donc il faut que nous apprenions cette langue pour nous approprier ce savoir et connaître encore mieux notre pays et pouvoir l'exploiter au mieux.
Bien, nous allons, professeur, je vais vous inviter à suivre un entretien que nous avons eu avec Colette Brackman, elle est journaliste au journal belge Le Soir. Et elle a parlé de l'indépendance. Et ensemble, nous avons eu à faire le bilan de l'indépendance de 50 ans, disons, de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous vous invitons à suivre cet entretien.
50 ans d'histoire, ça s'entend sur Radio Capi.
Dans quelques jours, le Congo fête ses 50 ans d'histoire. Quelle lecture faites-vous de l'histoire de ce pays depuis le 30 juin 1960 jusqu'à ces jours?
Je crois que pour comprendre les difficultés actuelles, il n'est pas inutile de retourner en arrière, de se rappeler qu'en 1960, la Belgique a vraiment bâclé l'indépendance du Congo. Le pays n'était pas prêt, n'avait pas formé suffisamment de cadres pour prendre la relève, et le cadre administratif belge qui était présent est parti massivement. Et donc l'administration s'est effondrée, la force publique s'est révoltée, et après quelques mois, le Premier ministre élu à l'issue d'un scrutin démocratique a été assassiné, et aujourd'hui, on connaît mieux la responsabilité de la Belgique dans cet assassinat. Donc le Congo était mal parti. L'indépendance a été dévoyée, et je crois qu'il faut retourner à cette erreur de départ pour comprendre que après le président Mobutu a pris le pouvoir en 1965 et que le pays est entré dans une période de parti unique, mais en réalité de dictature où les libertés publiques ont été confisquées et surtout où l'économie s'est progressivement effondrée à cause de la prédation, de la corruption, etc. Et après trois décennies de dictature, alors qu'on pensait que le Congo allait peut-être émerger, il s'est vu confronté à presque une décennie de guerre qui a elle aussi fait sa ponction sur le potentiel humain, économique, et les destructions du milieu, etc. Et donc c'est vraiment un pays qui revient de loin.
Oui, voilà, c'est un pays qui a connu beaucoup des problèmes. Aujourd'hui, l'économie est presque par terre. Le Congo est buté à plusieurs problèmes sociaux. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo puisse remonter, que le Congo puisse sortir de cette situation?
Mais je pense que ce gouvernement, les autorités actuelles, ont essayé de rétablir un cadre économique plus ou moins crédible et viable, de relancer l'économie, ce qui est la base, de relancer l'infrastructure. Mais maintenant, il est extrêmement urgent de relancer le social, de permettre aux Congolais de se nourrir, d'envoyer leurs enfants à l'école, de se soigner. Ce sont vraiment des urgences absolues, et on a un peu mis ces urgences de la population sur le côté au bénéfice d'autres impératifs qui étaient de mettre fin à la guerre, d'instaurer un cadre législatif et économique. Mais maintenant, l'urgence numéro un, c'est le social.
Voilà, parlons un peu des relations bilatérales entre la Belgique et la République démocratique du Congo. C'était des relations dans des sites. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces relations aujourd'hui?
Mais ces relations ont toujours été assez passionnées, aussi bien au Congo qu'en Belgique, peut-être inutilement passionnées. Aujourd'hui, le temps a passé. La Belgique d'aujourd'hui n'est plus du tout la puissance qu'elle était en 60. Elle est insérée dans l'Union européenne. Et le Congo, par contre, c'est une puissance émergente qui qu'il y a, et c'est s'en réjouir, qu'il y a de nouveaux amis, qu'il y a noué des partenariats avec la Chine, avec l'Inde, avec la Corée, il a de nouveaux amis. Donc, avec la Belgique, il y a une relation qui est fondée sur le passé, sur une connaissance de l'autre, sur une appréciation mutuelle, une certaine proximité, et ce sont des relations qui doivent être maintenant comprises sur le signe de l'égalité, du partenariat et du respect mutuel.
Voilà, et quels sont les événements qui vous ont beaucoup plus marqué au Congo 50 ans après? Vous vous intéressez beaucoup aux problèmes du Congo. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué?
Mais le premier événement historique, j'étais encore vraiment très jeune, mais c'était la mort de Lumumba. Je me souviens que ça m'a vraiment fait un choc, même si j'étais extrêmement jeune à l'époque. Alors après...
Vous étiez sur place au Congo?
Non, pas du tout. J'étais en Belgique et je suivais ça, mais j'avais le sentiment, j'étais une petite gamine, mais j'avais l'impression d'une immense injustice, que quelque chose de très grave s'était passé. Bon, après, j'ai fait d'autres choses, et puis je suis revenue au Congo. Alors, les événements qui m'ont vraiment marqué, c'est le départ de Mobutu, c'est la chute de Mobutu, l'entrée de la FDL, l'espoir immense que tout le monde avait, et moi aussi, disant, bon, Mobutu va partir, ça ne peut que aller mieux. En réalité, ce pays est entré dans une autre guerre, dans un autre cycle. Après cela, il y a eu l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, alors qu'il essayait quand même de commencer la reconstruction du pays. Il a été assassiné beaucoup trop, pas trop tôt, il est toujours assassiné trop tôt, mais enfin, il a été assassiné sans avoir eu le temps de remplir son programme. Alors, des choses qui m'ont marqué, c'est que j'étais à Kisangani pendant la guerre des six jours, et là, j'ai vu l'absolue cruauté des ennemis du Congo, des troupes belligérantes, le Rwanda et l'Ouganda, qui se sont battus à Kisangani, et les obus, les mortiers, ne blessaient pas ces troupes-là, elles blessaient, elles tuaient la population congolaise, qui était comme un objet de crime, qui était victime de crime, et qui ne pouvait rien faire. Et cette situation-là, la guerre du Kivu, je l'ai revue bien souvent par la suite, et ça m'a vraiment indignée et bouleversée. Oui. Et alors, ce qui m'a aussi impressionnée, c'est ce sont les élections de 2006, c'est la manière dont la population s'est engagée dans ce vote, d'une façon pleine de sérieux, de gravité, comme s'il fallait refonder le système démocratique. Et donc là, il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup d'espoir.
Colette Brachmann, vous avez beaucoup écrit sur le Congo. On peut dire que les laïcs Congo aujourd'hui vous passionnent, les Congo vous passionnent.
Oui, tout à fait, oui. Oui, il me passionne par une histoire qui est tout de même très chahutée et très dramatique, mais aussi par un potentiel. Alors, tout le monde dit toujours le potentiel économique, le potentiel minier. Moi, ce qui me passionne au Congo, c'est le potentiel humain. Ce sont des gens qui n'ont pas été, qui ont dû payer pour leurs, des jeunes qui ont dû payer pour leurs études, qui n'ont jamais, qui ont dû travailler pour payer leurs études, les professeurs étaient partis, et qui quand même sortent en parlant bien le français, en ayant quand même un bagage où on se demande comme par quel miracle qu'ils ont réussi à attraper ce bagage intellectuel. Ce sont des gens qui se battent pour leur vie, pour se débrouiller, et donc c'est ce potentiel de la population congolaise qui, pour moi, est le plus fascinant.
Oui, voilà, vous savez, François Fanon a dit « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. » Est-ce qu'on peut dire que même le développement de l'Afrique dépend du Congo?
Je pense qu'au cœur du continent, le Congo est une sorte de matrice avec les ressources naturelles, la forêt, l'eau et aussi le dynamisme de la population. Qu'on ne dise pas, on dit les gens vivent plus mal aujourd'hui, qui est, c'est vrai, mais en indépendance, il y avait 14 millions de Congolais. Il y en a combien aujourd'hui? 60 millions ou plus. Donc ça montre bien qu'il y a un choix pour l'avenir, pour la vie, pour donner la vie, pour se multiplier, une explosion démographique qui pour moi est aussi le signe d'un dynamisme et d'une foi dans l'avenir.
Voilà, et aujourd'hui, si vous pouvez peut-être rappeler un petit rappel des ouvrages que vous avez eu à publier sur le Congo.
Oui, le dernier qui est sorti l'année passée s'appelait « Vers la deuxième indépendance du Congo », qui expliquait un peu tous les développements depuis les élections, les disputes avec la Belgique, la manière dont le Congo veut s'émanciper. Avant cela, il y avait les nouveaux prédateurs, le titre dit bien de quoi il s'agit. Puis il y avait l'enjeu congolais, les racines de la violence, qui parlait beaucoup de la violence à l'Est. Et puis il y avait le tout premier, qui était le dinosaure, le Zaïre de Mobutu, qui était une description, j'ajouterai critique, du système Mobutu.
Alors 50 ans après, très bientôt nous allons célébrer 50 ans d'anniversaire, 50 ans d'histoire. Et comment, quelle lecture faites-vous de l'arrivée du roi des Belges ici pour célébrer les cinquantenaires avec les Congolais?
Mais justement, je crois que la présence du roi Baudouin en 1960, c'était un point important. Et maintenant, son frère vient clôturer un cycle, le cycle de ses 50 premières années, oui. Et il vient aussi en ouvrir un autre. Et j'espère que ce nouveau cycle est celui d'un autre partenariat avec plus d'égalité, plus de respect, moins d'ingérence de la part de la Belgique. C'est le début de la deuxième indépendance où la période postcoloniale se termine. Baudouin a terminé la période coloniale, Albert termine la période postcoloniale. Maintenant, c'est autre chose qui va commencer. En tout cas, moi, j'espère.
Alors, pour que le Congo puisse, notre pays puisse décoller de nouveau, c'est un problème d'homme. Qu'est-ce qu'il faut, dans quel domaine il faut beaucoup plus miser pour que le pays et l'économie puissent décoller.
Le Congo doit aussi, je pense, un peu guérir de lui-même, guérir de ses mauvaises habitudes, par exemple la corruption. Le rapport à l'argent est incroyable au Congo. On a l'impression qu'on pense qu'à ça et on peut le comprendre parce que l'argent manque et les gens doivent toujours se débrouiller pour en trouver. Mmh. Mais il y a aussi un rapport de corruption, de dévoiement, ce qu'on appelait du temps de Mobutu, les antivaleurs. Et donc, les Congolais doivent absolument se guérir de ces mauvaises habitudes du passé, du haut en bas de l'échelle sociale. Et ça, je crois que ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est se guérir de l'espèce de culte du chef, de l'autorité, du chef. Les citoyens doivent s'assumer d'une façon démocratique. Et un troisième point, on n'en parle pas beaucoup, les Congolais doivent aussi guérir d'un certain complexe d'infériorité ou d'incapacité. On a toujours l'impression que les Congolais doivent demander l'assentiment des pays étrangers, des puissances extérieures, et que si le reste du monde leur a pas dit que c'était bien, ils n'osent pas s'engager. Ils doivent se définir eux-mêmes par rapport à leurs besoins, à leur personnalité, à ce dont ils ont besoin, et demander le partenariat du reste du monde, mais avoir confiance en eux. Et ce manque de confiance en soi, c'est pas de leur faute, c'est le résultat de 80 années de colonisation où il y a quand même un racisme qui a été pratiqué, de 50 années d'indépendance qui n'ont pas été une réussite. Et donc là, il y a un problème psychologique, mais maintenant, il est plus que temps que les Congolais soient fiers d'eux-mêmes, fiers de leur pays et de ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes sans compter trop sur l'assistance du reste du monde.
Voilà, on dit toujours que le Congo est un scandale géologique par rapport aux richesses, les richesses qu'on trouve dans ces pays, mais il y a un problème aussi, certains pays occidentaux ont toujours un droit d'ingérence, ils veulent contrôler un peu les richesses du Congo. Alors comment est-ce que le Congo peut aujourd'hui gérer ses ressources minières, ses ressources et richesses pour son développement?
Mais le Congo,
avec tous ces plaisanteurs, l'étranger, les occidentaux qui veulent toujours avoir une main basse.
Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que le Congo diversifie ses partenaires. Il n'est plus dans ce tête-à-tête exclusif avec l'Occident, qui pensait que le Congo c'était un grenier où on pouvait laisser tout en réserve et aller chercher les ressources quand on en avait besoin. Maintenant, d'autres partenaires sont là, mais c'est aux Congolais à dépasser aussi leurs propres habitudes de corruption, pour bien dire, et de mettre en balance leurs partenaires, de faire jouer la concurrence, de prendre le meilleur de chaque. Le meilleur, pas pour sa poche personnelle, mais le meilleur pour le pays. Donc là, les Congolais doivent faire jouer cette concurrence. Ils peuvent en tirer profit si chacun fait abstraction de son intérêt personnel.
Colette Brachmann, un message peut-être à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment à l'occasion de la fête du cinquantenaire.
Eh bien, bonne fête, bonne indépendance et je crois que l'avenir vous appartient.
Colette Brachmann, journaliste au journal Le Soir, je vous remercie.
Merci.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, c'est parce qu'il manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Voilà, nous parlons capitaliste par aujourd'hui de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est dommage, j'ai moins ça. Professeur Elie Mbokolo, vous venez de suivre. C'est un entretien avec Colette Brackmann, journaliste au journal Belge Le Soir. Votre réaction?
Bon, le collègue Brackmann connaît bien le Congo et dans l'ensemble, je suis d'accord avec elle, sauf peut-être sur deux choses.
Oui.
La première, c'est l'idée que la Belgique a bâclé et a raté l'indépendance du Congo. Je ne crois pas. Je dirais que nous, les Congolais, nous n'avons pas obtenu l'indépendance que nous avons souhaité avoir, mais la Belgique s'est plutôt bien tirée d'affaire. Parce que, premièrement, sur le plan économique et financier, vous savez qu'après la table ronde politique, il y a eu la table ronde économique,
oui,
qui a été négligée par les partenaires congolais, et il a fallu un tour de passe-passe pour que, du jour au lendemain, les sociétés de droit congolais qui exploitaient les ressources du Congo deviennent des sociétés de droit belge. Donc, en 2-3 signatures, tout le capital financier du Congo est passé entre les mains de la Belgique.
Donc on peut dire aujourd'hui que la Belgique s'est développée grâce aux ressources du Congo.
Non seulement à cause de ça, mais à cause de tout le reste. Voyez Bruxelles, voyez Ostende, voyez Liège, voyez Laeken, voyez tout ce que vous voulez. La Belgique était un petit état de paysans en 1830, un petit état industriel dépendant d'ailleurs des capitaux anglais, français et prussiens. Grâce au Congo, la Belgique est devenue un état indépendant. Et je le rappelle, créancier des États-Unis en 1945. Le seul pays occidental créancier des États-Unis en 1945. Deuxième chose qui montre que les Belges n'ont pas raté leur indépendance, mais ils ont fait l'indépendance qu'ils voulaient, c'est que cet État monarchique a conçu les institutions du Congo république sur le modèle monarchique. Donc on a mis à la tête du Congo une diarchie, Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba, dont on savait bien que ça ne marchait pas, ça ne marcherait pas. Avec derrière eux, le Katanga et le Kasai qui étaient prêts à bondir dans la sécession pour mettre à mal le pouvoir de Kinshasa. Alors, troisième chose...
Alors, sur lequel... ça, les Belges qui tiraient les ficelles.
Ah, ben, ça, c'est évident, d'autant plus que par la suite, on sait que les ficelles de l'assassinat de Lumumba, c'est à Washington d'abord et puis à Bruxelles que ça a été tiré. Là où je ne suis pas d'accord non plus, c'est au titre des symboles, lorsque Colette Brackmann, avec laquelle à 95% je suis d'accord,
oui,
lorsque Colette Brackmann explique que le roi Baudouin est venu,
inaugurer,
terminer la colonisation et Albert II terminer la post-colonisation. C'est je totalement inexact. Le roi Baudouin n'est pas venu terminer la colonisation, il est venu faire la morale aux Congolais pour leur dire en 1885 vous étiez des sauvages, des grands enfants, vous ne saviez rien, nous vous avons apporté la civilisation, faites attention, prenez-en soin, et c'est ce discours-là paternaliste que Lumumba n'a pas voulu entendre. Aujourd'hui, Albert II ne représente, la Belgique ne représente plus beaucoup pour le Congo. Il est venu ici chez nous comme un chef d'État parmi d'autres, aussi important mais aussi banal que tous les autres. Et je pense que peut-être que nous avons tort de réserver à ce roi un rôle qui n'est pas le sien. C'est un roi cérémoniel en Belgique qui n'a aucun pouvoir. C'est le pouvoir est entre les mains du Premier ministre et du Parlement. Et il ne faut pas que les Congolais se trompent de cible. Là où je suis d'accord avec elle, c'est sur tout le reste, notamment sur le fait que le Congo aujourd'hui diversifie ses partenariats et sur l'idée que les Congolais ne voient pas, c'est que notre pays a toutes les caractéristiques d'un pays émergent.
Alors, elle a évoqué les problèmes qui minent le Congo aujourd'hui. Le Congo doit guérir de la corruption, des antivaleurs. Elle a parlé du culte du chef et le complexe d'infériorité, ce manque de confiance en soi, on veut toujours tendre la main aux autres.
Sur tous ces dépôts, je pense que le plus important, dès lors que le chef aujourd'hui est issu d'élections, le plus important serait notre rapport à l'argent, qui vraiment est un vrai, vrai, vrai problème.
La corruption.
C'est ça, le problème de déjà l'argent, tout ce que nous attribuons à l'argent,
oui,
qui devient une sorte de référence absolue.
Mm-hmm.
Et puis l'autre chose qui me semble peut-être moins aussi important, c'est le manque de confiance des Congolais en eux-mêmes et l'idée qui est une idée raciste. C'est une idée colonialiste, une idée des Blancs, l'idée selon laquelle Mondele, c'est-à-dire que ce que fait le Blanc est toujours meilleur.
C'est toujours meilleur que ce qu'il fait.
Or, on sait que c'est totalement inexact.
Oui.
Ça ne correspond à rien. La Chine aujourd'hui est la deuxième puissance économique du monde. C'est pas un pays de Blancs. Et d'ailleurs, cette notion de Blanc et de Noir, nous savons que c'est une construction de la période esclavagiste et de la période coloniale. Lorsque la Belgique a été vaincue en 1940, ce sont les soldats noirs, les soldats du Congo, qui en combattant en Éthiopie, en Birmanie, ont redonné à la Belgique sa place dans le monde.
Voilà, nous recevons également dans ce studio Anissé Mahira. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant en développement organisationnel et directeur du GAAD, c'est le groupe d'appui et d'accompagnement au développement durable.
Oui, pour un développement durable.
Pour un développement durable. Okay. Nous allons vous accueillir et retrouver Tassima Poukou qui est en direct dans les quartiers de Kinshasa. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer la République démocratique du Congo?
Il faut
compter, après,
le professeur vient de le dire, il faut compter sur les ressources humaines congolaises. Donc, la grande force pour moi, c'est d'abord les Congolais lui-même. Je suis d'accord avec le professeur quand il donne le rôle des acteurs Albert Baudouin. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais là, je suis d'accord avec Brackmann. C'est la fin, 50 ans, c'est la fin d'une époque et on ouvre une autre qu'il n'a pas nommée. Elle n'a pas nommé. Donc, cet autre-là, moi je venais d'animer un atelier à Kindu et j'ai dit, au 30 juin, nous devons mettre le compteur à zéro.
Oui.
Il faut qu'on reparte. Donc, c'était là, je suis d'accord avec Brahman pour dire que 50, enfin le 30 juin marque la fin d'une période et le début d'une autre. Et pour nous, agents de développement, il faudrait qu'on sache que compter à zéro, qu'on se redéfinisse en tout, et même pour les actions de développement.
Voilà, nous allons retrouver l'un de mes correspondants, Tati Mapoukou, depuis la commune de Limba. Tati, bonjour.
Bonjour.
Et bonne fête du cinquantenaire.
Merci, je profite de l'occasion pour souhaiter à vous et à tous nos auditeurs une joyeuse fête d'indépendance.
Alors, à quel endroit ou dans quel quartier vous vous trouvez exactement?
En fait, je me trouve en ce moment au rond-point supérieur des bases, situé au croisement des avenues Sefouelongourou dans la commune de Limba, la municipalité dite des intellectuels, qu'elle abrite l'université de Kinshasa, la toute première institution universitaire du pays, les camps des professeurs et des étudiants.
Voilà, et comment ça se passe dans ce quartier, la veille de l'indépendance, et comment la population vit le cinquantenaire?
En effet, je dis, une ambiance de gaieté. Comme on est encore dans la matinée, il y a une circulation intense parce que chacun se débrouille pour arriver à son lieu de travail. Mais la particularité est que le rond-point supérieur Limba est en train d'être restauré avec une nouvelle ceinture, des nouvelles cachages et des plantes ornementales en prélude de festivités du cinquantenaire. Donc je vois encore des cantonniers qui sont en train de travailler et à mes côtés, j'ai quelques personnes qui aimeraient dire ce qu'ils pensent des festivités du cinquantenaire.
Oui.
Je peux passer quelques mots.
Voilà. Bonjour.
Le cinquantenaire, ça a un goût amer. Pour ceux qui ont dit, vivent de toute façon, le bien qui est.
Oui.
On a travaillé, mais peut-être qu'on n'a pas atteint ce qu'on voulait avoir. Mais ce que je dis pour contrôler, c'est qu'on doit continuer à travailler.
Mmh.
À travailler fort, parce qu'il faut voir le pays comme l'Afrique du Sud. Les années 60, c'était rien. Mais aujourd'hui, si vous comparez l'Afrique du Sud par rapport à notre Congo RDC, c'est vraiment 1000 fois derrière.
Voilà.
On a eu des gens
qui
n'avaient pas tellement la confiance.
Oui.
Mais je crois que l'émergence de la conscience d'aimer ce pays, de travailler pour ce pays, c'est petit, grand, riche. Mais nous ne sommes pas ça.
Voilà, merci beaucoup. Oui.
Travaillons.
Oui.
Et pour ce pays, ce peuple, pour qu'il mérite ce qu'il doit.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Tati Mapoukou, nous vous disons merci et à tout à l'heure. Nous allons retrouver à présent Guy Roger depuis la ville de Matadi, la ville portuaire de Matadi. Guy Roger, n'y a pas là, bonjour.
Bonjour, Jody Kachama.
Et bonne fête de l'indépendance.
Pareillement à vous et à tous nos auditeurs.
À quel endroit ou dans quel quartier vous vous trouvez en ce moment?
Écoutez, je dis, je suis dans le quartier d'Ibouan-Sakala, oui. Dans la commune de Nzanza, quelque part dans la ville de Matadi.
Et comment ça se passe dans ce quartier, la veille de l'indépendance?
Bah, écoutez, je dis, l'ambiance est plutôt calme, hein, du moins dans le quartier où je suis. Mais la seule chose que j'ai remarqué, je dis, c'est les maisons des coutures. Hein, elles sont envahies par des gens qui viennent justement déposer leur pagne du cinquantenaire pour que la fête de demain soit vraiment au rendez-vous. Alors, à ce sujet, je dis, j'ai à mes côtés un monsieur qui s'appelle Tissou Zouidi Kapita. Il a 75 ans. Et il va nous parler brièvement de ce qu'a été l'indépendance ou la veille à Matadi. Je vous le passe.
Voilà. Bonjour, monsieur.
Bonjour, bonjour.
Alors, votre témoignage?
Quoi?
Oui, la veille de l'indépendance, quel est votre témoignage?
Oh, la veille de l'indépendance, mais c'est tout le monde qui était content, hein?
Oui.
Vous savez que l'indépendance de notre pays, là, c'est la BACO parmi les promoteurs, hein?
Mm-hmm.
Bon, la BACO, dans la province en général, la ville de Matadi en particulier,
oui.
J'étais très content. À la veille de l'indépendance, j'étais au service à la Covaco, mais c'est tout le monde qui était content.
Voilà, c'est tout le monde qui est content. Et aujourd'hui, comment vous préparez les cinquantenaires, les festivités du cinquantenaire à Matadi?
On prépare ça, bon. Préparation, je suis ici ensemble avec le maire de la ville, bon. Et je vais lui poser la question comment on prépare la fête de l'indépendance. Je vous le passe.
Oui, je dis Kachama, j'ai un autre intervenant, comme venait de le dire le monsieur, c'est le maire de la ville qui va essayer brièvement de parler des préparatifs du cinquantenaire dans la ville de Matadi. Je vous le passe.
Voilà, monsieur Jean-Marc Zaïdio, bonjour.
Et bonjour, je dis Kachama.
Alors, bonne fête du cinquantenaire.
Et merci pareillement.
Et comment ça se prépare dans votre ville de Matadi?
Oui, dans la ville de Matadi, les préparatifs vont bon train.
Oui.
Et je crois que la population est vraiment mobilisée. La population attend demain pour défiler chaleureusement. Donc, de ce côté-là, en tout cas, il y a des bons préparatifs.
Il y a des bons préparatifs. Est-ce qu'il y a un message à lancer à tous vos administrés à la veille des festivités de l'indépendance?
Et effectivement, je crois qu'en dehors, n'est-ce pas, du souhait d'une bonne fête, heureuse fête, n'est-ce pas, du cinquantenaire, mais je leur demande que chaque Congolais, d'une manière générale, et chaque Matadi en particulier, puisse cultiver la conscience nationale pour nous permettre, n'est-ce pas, de rebâtir, n'est-ce pas, notre pays, pour que nous puissions vraiment arriver à concrétiser, n'est-ce pas, l'idéal des pères fondateurs de l'indépendance, que construire un pays plus bon qu'avant.
Merci beaucoup Jean-Marc Ndeidio, maire de la ville de Matadi, et merci à Guy Roger pour cette intervention. Nous continuons notre tour des provinces. Nous allons à présent nous rendre au Bandundu, particulièrement à Kikwit, pour retrouver Fabien Kambizi. Bonjour.
Oui, bonjour, je dis Kachama.
Et bonne fête, Fabien.
Bonne fête, je dis Kachama. Merci beaucoup.
À quel endroit ou dans quel quartier vous vous trouvez en ce moment?
Je me trouve en ce moment-ci au quartier Bongisa, dans la commune de Lukolela, devant la cathédrale Saint-François-Xavier, à quelques mètres de la tribune de Kansinga.
Et comment ça se passe, les préparatifs des festivités de l'indépendance dans ce quartier?
Écoutez, je dis, aucun signe de fête n'est visible à la veille du 50e. Cette ville d'environ 650 000 âmes situées à 520 km de ville de Kinshasa. Certains habitants, je dis, de cette ville pensent que cette journée, c'était comme toutes les autres festivités commémoratives de l'indépendance des années antérieures. Aucun aménagement dans la ville, les bâtiments ne sont pas pour donner peut-être une nouvelle image, comme cela se passe ou à Kinshasa, à Lubumbashi ou ailleurs. On ne sent même pas qu'on est à la veille du cinquantenaire, si ce n'est pas le préparatif du côté des FARDC et de la police, où durant toute la semaine, sont vraiment des marches pour les défilés de demain 30 juin pour jour de l'indépendance.
Oui.
Je vous propose d'ailleurs un témoin qui est à mes côtés, du moins lui avait vécu là. Du 30 juin 1960, il s'appelle le papa Louis.
Voilà, papa Moulangi, bonjour.
Alors, oui.
Papa Moulangi, bonjour.
Bonjour et bonne fête, j'anticipe déjà, bonne fête.
Merci. Okay. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous de quel est votre témoignage par rapport au 30 juillet 1960.
Je ne sais pas, témoignage dans quel sens, dans ce qui se prépare ici ou bien le passé.
Oui, ça. Par rapport au passé, vous avez vécu à cette journée du 30 juin 1960.
Oui, le 30 juin, je l'ai vécu, mais pas ici à Kikwit, à Kinshasa, à Léopoldville. À Léopoldville. Oui. C'était à ce moment-là, j'étais à Léopoldville.
Vous étiez à Léopoldville et comment ça s'est passé?
Oui, j'étais à Léopoldville.
Et comment ça s'est passé?
Ah, ça s'est passé d'une façon triomphale. C'était la joie. Et la veille, et surtout, il y a un événement, l'arrivée du roi Baudouin sur le boulevard. Ça, c'est, ça m'a toujours marqué. Où il y a un monsieur là qui, à côté de Lignolatra, au Traco à l'époque, qui lui a ravi l'épée. Et le monsieur s'appelle Ambroise. Voilà, ça c'était l'événement. Mais ça s'est passé d'une façon qui marquait qu'effectivement nous étions dans la joie de sortir du très passé et d'entrer dans les nouveaux départs. Voilà.
Merci beaucoup à monsieur Moulingui et merci à Fabien Camidi pour ce tour de région et bonne fête de l'indépendance à Kikwit. Professeur Eddy Kambokolo, un commentaire par rapport à tout ce que vous venez
d'entendre. Oui, l'événement symbolique auquel il vient de faire allusion s'est passé tout près d'ici, de Radio Okapi, puisque Kassavubu était à la gauche de Baudouin, debout, dans une voiture décapotable. Tout le monde était finalement descendu et il y a un monsieur habillé comme un évolué.
Nous
avons la photo qui est une très très belle photo, étonnante. Ce monsieur donc avance en sens contraire de la voiture décapotable du côté du roi Baudouin et lui arrache son épée.
C'est pas possible, et la sécurité n'était pas là.
Et alors, il faut penser que les gens étaient tellement dans une espèce de joie à qu'ils n'y ont pas pensé. Et c'est le plus extraordinaire, c'est cette idée étonnante d'aller arracher le symbole du pouvoir royal. Eh bien, ce monsieur a été rossé par la force publique et je crois que cette violence sur cette personne annonçait ce qui allait se passer une semaine plus tard lors des mutins.
Et quelle était la réaction de Kassavubu, du roi Baudouin?
Et je pense qu'ils ont été pris de courbe et de panique. Hein.
Oui.
J'imagine volontiers. Et je pense que pour Baudouin, ce n'était que la première couleuvre qu'il avalait avant le discours de Lumumba.
Voilà, on va terminer par ici avec vous, professeur Eddy Kambokolo. Avant de clore cet entretien avec vous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au développement du Congo 50 ans après?
Ben, moi, les deux choses que j'ai à dire aux Congolais, c'est d'abord, il faut fêter cette journée parce que c'est une journée capitale dans notre histoire. C'est le jour où le Congo indépendant est né. Et la deuxième chose, c'est que nous n'avons pas à être naïvement confiants par rapport à l'avenir. Nous devons savoir que l'avenir du Congo, ce sont les Congolais qui vont le bâtir. Et pour le bâtir, cet avenir, il faut le construire. Et on a entendu les gens dire tout à l'heure qu'on balaye les rues aujourd'hui. Il ne faut pas que ça s'arrête le 30 juin. Il faut que ça commence et que ça continue. Et je pense que nous sommes au début d'un commencement. Et je pense que tout ce que nous sommes, vous, les journalistes, nous, les acteurs intellectuels, les acteurs de développement et tous les autres, nous avons vraiment un devoir important à accomplir à partir de maintenant. Il faut que ces frémissements d'émergence se traduisent en réalité pour que le prochain cinquantenaire, nos enfants, nos petits-enfants, disent que nous sommes en effet en train de devenir une grande puissance.
Professeur Eddy Kambokolo, historien, je vous remercie.
Merci à vous et merci à Radio Okapi pour le travail formidable qui se fait ici.
Congo, Congo de mboka, mboka ngombo kengeli okoyi, mboka ngombo kengeli leopa. Kolo
C'était la Congo à venir, un titre des Jamaïcains.
Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien de Okissa et des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de Suède, de Belgique et d'Allemagne.
Anissé Maïra, consultant en développement organisationnel et directeur du GAD, groupe d'appui et d'accompagnement au développement durable, est notre invité. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, 50 ans après, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer les Congos? Les gens ont toujours l'habitude de dire l'État paye la vie sur les Cambodges, bah, Konziba paye la vie sur les Cambodges. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un développement durable du Congo?
Moi, je pense qu'un bon développement doit être réfléchi. Moi, j'ai toujours dit, bon, 50 ans après, il faut d'abord faire le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est comme ça que je disais tout à l'heure qu'il faudrait que nous arrivions à dire, mettons le compteur à zéro et repartons. Mais avant de le mettre à zéro, il faut d'abord que nous puissions dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous avons fait des actions que nous avons appelées actions de développement, mais qui nous ont amené à un sous-développement. C'était quelque part, c'était pas des actions de développement, c'était peut-être des actions de sous-développement. Donc, on doit réfléchir à tout cela. Et pour que nous ayons un développement durable, il faut qu'il soit planifié. Donc, le développement doit être planifié. Je vais donner une définition simple de ce que nous appelons planification. La planification, c'est une réflexion préalable à une action à venir. C'est-à-dire réfléchir profondément à ce que l'on veut faire avant de le faire. Donc, on ne peut plus se mettre au 1er juillet à faire n'importe quoi et n'importe comment. Donc, on doit réfléchir. Je voudrais faire ceci. Je voudrais arriver à tel résultat. Donc, penser au résultat au moment où on est en train de commencer une action. Ce que nous disons, donc, il faudra que un développement durable soit planifié. S'il n'est pas planifié, il ne sera jamais durable parce qu'en fait, quand ce n'est pas planifié, vous ne savez pas exactement où vous allez. C'est comme un avion qui décolle, il ne connaît pas dans quel aéroport il va atterrir.
ça peut être dangereux. Donc, planifier, c'est dire que je veux partir, mais je vais à tel endroit, quitte à ce qu'il y ait des événements.
Et je vais emprunter telle
route. Je vais emprunter telle route.
Oui.
Je vais faire autant de temps. Et c'est donc, c'est ça dont nous appelons plan. Donc, réfléchir à tous ces détails-là avant.
Okay.
Une petite réflexion stratégique, juste pour dire comment les choses devraient se passer. Une planification que nous disons de mise en train, programmation, programmer les détails. Et finalement, une planification opérationnelle pour dire tout cela est encadré par quelle mesure. Si nous avons ces trois étapes de planification, nous disons, on arrivera sûrement. Voilà comment moi j'entends le développement durable. Ça doit être, comme je peux me résumer, ça doit être un développement planifié.
Et dans la planification, vous avez parlé de la programmation.
J'ai parlé de trois étapes.
Oui.
J'ai parlé d'une planification stratégique,
oui.
C'est-à-dire la réflexion qui conduit à l'action que l'on veut mener.
Oui.
J'ai parlé de la planification de mise en train ou programmation,
oui.
Qui est en fait la définition des détails. C'est-à-dire là, on donne des détails sur ce que l'on voudrait faire. Les détails, c'est tout cela jusqu'au budget.
Mm-hmm.
Et puis, il y a la planification opérationnelle qui est un ensemble de mesures d'encadrement de cette planification pour qu'on arrive au but.
Voilà,
voilà comment j'entends cela. Moi, mm-hmm. Je me dis, je résume tout en cela. Si nous faisons les choses de cette façon-là, nous ne serons plus surpris par n'importe quoi.
Et certains disent que dans notre pays, nous sommes spécialistes en action des saupoudrages, en effet d'annonce, les slogans, on va faire ceci, on invite les médias, on fait beaucoup de bruit tout autour, et après, plus rien.
Et ça, c'est vrai aussi. Moi, je dis que c'est vrai. Même pour les actions de développement qu'on a connues pendant tout ce temps, quelquefois, c'est l'argent qui vous fait réfléchir. L'argent ne peut pas faire réfléchir.
Mmh.
Vous voyez, dans les trois types de planification que je donne,
oui.
L'argent n'intervient que comme quatrième outil dans la deuxième phase de la programmation. C'est-à-dire, quand on aura tout programmé, on dit, ça va coûter combien. Mais pour nous, quand on veut faire quelque chose,
d'abord l'argent. Et le reste après.
Mais non, quand on a l'argent, on ne réfléchit plus. Il faut réfléchir avant que vous ayez l'argent.
Oui.
Donc, c'est comme ça que je dis, la planification opérationnelle doit permettre à ce que la réflexion saine se passe pour dire qu'est-ce que nous voulons faire, comment on veut le faire, tout ça, avant de se poser finalement la question combien ça va nous coûter. L'argent est devenu pratiquement, et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, l'effet d'annonce, c'est que quand quelqu'un vous donne l'argent, il vous dit, mais va dire vite à la radio que moi j'ai donné l'argent. C'est pas pour le développement, c'est pour lui. Oui, il voudrait qu'on sache qu'il lui a donné
l'argent. Lui a donné, oui.
Alors on passe vite, on n'a pas réfléchi, on n'a pas ceci, et puis bon, c'est ça l'effet d'annonce. Moi je suis d'accord avec vous que ça s'est beaucoup passé. Et puis, on a tout mis aussi sur le sac de développement. Tout n'est pas développement. Quelqu'un qui va distribuer un sac de riz dans un foyer qui fait le développement. C'est lui qui va faire ceci. Donc, tout n'est pas action de développement. Donc, on a tout confondu, les urgences, l'humanité, tout ça, on appelle ça, on fout ça dans le fond. Alors, quand on échoue, on dit, voilà, c'est le développement qui échoue. Donc,
voilà.
Tout n'est pas développement, il faut vraiment qu'on se le dise.
Alors, Anissé Maïra, par rapport au domaine agricole, certains disent que c'est un domaine très important qu'il faut relancer et c'est important pour le développement du Congo.
Oui, moi, je pense que... si on veut que nous puissions aller loin, il faut d'abord qu'on regarde sous nous. C'est le sol que nous avons. Ce pays, moi j'ai toujours dit, il est vide. Bon, ça peut se discuter, parce qu'il y a 60 millions, tout ça. Moi, quand je circule ce pays, il est vide. Il est occupé, je ne sais pas combien de pourcents, en tout cas, il est encore vide.
Il y a la concentration de
population dans
les centres urbains.
Parce que même quand on dit, bon, à l'est, c'est très plein, tout ça. Bon, faites Goma, Boutembo, regardez ensuite.
Mais le pays est vaste.
Il est tellement vaste.
Oui.
Et puis, il n'y a aucun coin de ce pays où il n'y a pas de verdure. C'est dire que le sol aussi est riche. Donc, l'agriculture seule peut permettre à ce pays puisse décoller. Mais encore une fois, pas n'importe quelle agriculture, il faut que ce soit une agriculture planifiée. J'ai vu tout à l'heure, on a distribué aussi des caractères pour faire l'agriculture.
Oui.
Mais moi, je me dis, est-ce qu'il faut commencer par la mise en place de moyens? Il faut commencer par la réflexion stratégique. Quel cadre? Parce que les tracteurs font partie de ce que moi j'appelle moyens. On mettra en place des moyens, mais quand on a déjà réfléchi. C'est-à-dire, les moyens viennent. Les moyens, c'est aussi l'argent. Donc, ça peut être l'argent, ça peut être le matériel, tout ça. Ça vient quand la réflexion a été déjà faite. Donc, je me dis, l'agriculture est, je pense jusqu'à aujourd'hui, que c'est l'agriculture qui peut pousser notre pays à aller là où il peut aller.
Aujourd'hui, on parle des 5 chantiers de la République. C'est aussi, on peut dire en quelque sorte, c'est également un plan de développement.
Planifié. Oui, bon, je dis que... Je réfléchissais en ceci, je me disais, quand le président avait donné son discours
au programme,
il avait dit qu'il avait un rêve pour le pays. Donc il avait une vision et qu'il avait des orientations. Nous, quand nous faisons la planification, comment nous faisons? La planification commence par une vision, elle transite par des orientations avant d'arriver aux objectifs jusqu'aux activités à mener. Et à son niveau, la vision, tout à fait normale, il a donné 5 orientations. C'est ce qu'on appelle les 5 chantiers. Donc, au niveau du développement, moi je me dis, les 5 chantiers constituent les 5 orientations. Maintenant, il faudra que chaque service technique qui est branché sur une orientation puisse aller jusqu'au bout. Parce que de l'orientation, on passe aux objectifs généraux. Des objectifs généraux, on passe aux objectifs spécifiques. Des objectifs spécifiques, on passe aux résultats attendus. Et on passe aux activités à mener. C'est là qu'on peut dire telle activité on mènera pour pouvoir atteindre telle orientation, pour pouvoir rejoindre la vision.
La vision.
Et moi, je me dis, les 5 chantiers, pour vous donner un exemple, je suis arrivé à Kisangani en 2006. Mais Kisangani était une ville presque morte. Je suis rentré en 2009.
Après la guerre des 6 jours.
Bon, non, 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 2006.
En 2006,
c'est tout récemment.
Oui.
Je suis rentré en 2009. Du fait qu'on ait ouvert la route Kisangani-Beni, tout a changé à Kisangani. Donc, on n'a même pas besoin de pouvoir aller parler de l'agriculture, il suffit seulement d'ouvrir les pistes. Dès que vous ouvrez les pistes, l'agriculture se développe. Et puis maintenant, on peut suivre comment encadrer toutes ces personnes. Donc, la seule ouverture de la route Beni-Kisangani a fait que à Kisangani, la vie est revenue. Le marché a chavalé. Tout était là. Maintenant, si vous allez à Kisangani, on va même vous voir à Kisangani. Ce que je n'ai pas vu en 2006. C'est tout simplement un seul facteur, c'était la route. Et ça fait partie du chantier. Donc, je me dis, l'agriculture est un chantier qui est là. Mais en fait, il suffit de prendre à bras le corps le chantier route, l'agriculture cérébrale.
Donc la route est des dessertes agricoles, hein, surtout.
Donc toutes les routes. Les routes des dessertes agricoles qui viennent se déverser sur de grandes routes. Donc les routes, tout simplement, l'agriculture est sauvée. Et moi je me dis, n'allez quand même pas dire à quelqu'un qui est à Bumba d'aller vulgariser le riz pendant qu'il est en train de mettre le riz, le paddy dans le feu pour pouvoir cuire la suppente parce qu'il ne sait pas où vendre.
C'est ça, ils vont aller à Bandoumou.
Il y a des produits qui pourrissent. Aller à Bandoumou, dans le pont de Boulungu, les recettes de manioc, on le met au feu pour cuire la nourriture. Parce qu'on ne sait pas vendre.
Alors qu'il y a des gens qui.
Il y a des gens qui meurent de faim, ça coûte très cher, ça.
Oui.
Et on le fait nourrir de n'importe quel riz. Alors que les riz de Bumba, c'est les riz réputés. Mais il ne peut pas arriver ici. Donc, route, l'agriculture est sauvée. Voilà ce que moi je pense. Donc, l'agriculture peut constituer cette base pour que notre pays puisse aller à l'avant.
Voilà, nous parlons aujourd'hui du développement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer le développement du Congo 50 ans après? Nous savons que le pays, on l'a qualifié de scandale zoologique. C'est un pays qui a des richesses minières incroyables. Est-ce que ces richesses ne peuvent pas développer ce pays?
J'ai lu quelque part, je crois que c'est dans Renaître, si nos minéraux pouvaient être au service de notre agriculture et de notre éducation.
Oui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'agriculture qui était au service des minéraux. Il faut quand même imaginer, quand tout était encore sous le sol, il a fallu de l'argent au roi Léopold II dont on a parlé ici pour pouvoir faire de l'agriculture. Mais c'est l'agriculture congolaise qui était encore à ce moment-là, le caoutchouc, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est l'agriculture qui a permis à ce qu'on achète les premières baisses pour pouvoir creuser pour avoir le premier minéraux. Il faut maintenant un retour de cela. Malheureusement, les mines se trouvent à l'état où ça se trouve. Et ce n'est plus les temps de la gécamine qu'on a connu, tout ça. Mais moi, je me dis, il faudra maintenant penser à l'agriculture. S'il y a un peu de sous du côté du minerai, et comme l'a si bien écrit le père, je crois que c'est Guilbert, au niveau de Renaître, que si nos minéraux pouvaient se mettre au service de l'agriculture et de l'éducation, moi je pense que ça peut sauver le pays. Et le minéraux, c'est-à-dire qu'on investisse dans l'agriculture. Maintenant, je pense qu'il est dépassé de pouvoir parler encore d'une agriculture manuel, c'est un peu dépassé parce que les besoins sont tout à fait galopés, mais
il y a une
agriculture mécanisée, mais alors, industrielle, mais alors planifiée. Moi, j'insiste sur cela.
Plutôt sur la planification.
Moi, j'insiste sur cela parce qu'il ne faut quand même pas donner à un paysan aujourd'hui, un tracteur, vous le mettrez en difficulté parce qu'il ne saura pas gérer un tracteur.
Oui.
Il faudrait d'abord constituer, je ne sais pas quelle sorte de brigade, peut-être qui, dans des coins, il y a des brigades qui peuvent s'occuper de ces machines, qui vont servir le paysan. Et quand il y a des problèmes, les brigades interviennent. Ça, moi, je ne sais pas encore comment ça doit se définir, mais il faudra penser à des choses comme ça. Donc, des structures d'encadrement de ces machines, pour que ça ne puisse pas retomber sur le paysan. Le paysan a déjà des problèmes avec sa machette. Si vous voulez qu'il y ait encore des problèmes avec des tracteurs, là vous les tirez.
Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour initier le développement à la base? Les gens, ils cessent de compter, de compter toujours sur les autorités au niveau national, voilà, qu'on doit faire ceci, faites ceci pour nous, mais les gens peuvent quand même eux-mêmes s'organiser à la base au niveau des localités pour le développement communautaire.
Mais je pense que c'est l'autorité qui doit donner le temps. C'est l'autorité qui doit donner le temps. Parce que, en fait, pourquoi les gens pensent aux autorités? Parce que les autorités font penser aux gens qu'ils sont indispensables. Ils font des dons à tous les niveaux. Qui n'aimerait pas recevoir un don au village? Je vais vous raconter une anecdote.
Oui.
C'en était une. Mm. Bon, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui devait se faire du côté du Bas-Congo. On dit, bon, si on donne de la nourriture aux paysans, il devient fort, il peut faire de l'agriculture. On a distribué des sacs de maïs au Bas-Congo pour que les gens... Je crois qu'on a appelé cette opération-là nourriture contre travail. C'est-à-dire, si les gens sont bien nourris, ils peuvent bien,
travailler.
Alors, nourriture contre travail, on a donné des sacs de riz, fait des sacs de maïs aux paysans, sur l'axe, je crois que c'était du côté de la ville qui est à côté de Mbanzangungu, après Mbanzangungu. Donc, on a donné, mais on a oublié que dans la ration alimentaire du Bas-Congo, il n'y a pas de maïs. Là, je crois qu'on ne met pas le maïs. Les gens produisent le maïs pour vendre. Mais maintenant qu'on leur a donné ce qu'ils vont chercher pour pouvoir vendre. Alors, ils ont tout simplement vendu.
Ils ont vendu, oui.
Ils ont vendu, ils ont eu ce qu'ils devaient avoir. Mais cette année-là, on a remarqué qu'il y avait une baisse de production de maïs. Et on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vous dis que...
C'est le manque de planification.
Quand on pense qu'il faut donner aux gens, alors qu'il faut leur donner des possibilités de produire, l'autorité est là pour offrir. Quand moi je parle de la planification, ça doit partir quand même de ceux qui savent quand même comment planifier. Mais quand vous êtes sur quelque part, il faudrait quand même dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire pour arriver à leur propre développement. Donc, c'est l'attentisme qui est là. Est né de quelque part, c'est pas un fait qui est tombé du ciel. Donc, c'est que, il y a des gens qui pensent que quand on me donne, quand on leur donne, il y aura ceci, il y aura cela, tout ça. Bon, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le développement à la base souffre. Donc, je pense que c'est pas que les gens ne veulent pas, parce qu'en fait, finalement, ceux qui ne reçoivent rien, ils sont pas morts. Ils vivent de petites agricultures qu'ils font à leur niveau. Donc moi je me dis, c'est une planification qui doit être d'abord nationale et qui doit se ramifier jusqu'au niveau des communautés.
Nous allons accueillir la question de M. Legault qui nous appelle de Mboujimaï. Bonjour.
Bonjour.
Oui, on vous écoute rapidement.
Oui, je voulais juste poser la question de savoir, oui, quel doit faire le Congolais pour se prendre en charge durant les années qui vont venir et se développer?
Merci, Monsieur Legault, Anissé.
Le Congolais doit réfléchir donc à quel type de développement il veut arriver. Et tout à l'heure, nous avons parlé de la planification tout à l'heure. Donc, le Congolais doit planifier son développement. Il doit savoir qu'est-ce que moi je veux et il met le moyen pour pouvoir y arriver.
Et non pas chercher d'abord les moyens.
Non, on ne cherche pas d'abord aux moyens, on réfléchit d'abord. Donc, il doit réfléchir à quel type de développement il doit arriver, il veut arriver et maintenant, rechercher des moyens pour atteindre ce type de développement. Moi, je pense que si on commence de cette façon-là, si toute action est précédée d'une réflexion préalable, nous allons arriver où nous voulons arriver. Parce que pour le moment, nous décollons sans savoir où nous allons, on nous amène n'importe où, on nous conduit n'importe comment, et c'est que ne soyez pas surpris que quand c'est quelqu'un d'autre qui vous conduit, ne soyez pas surpris qu'il vous amène là où il veut. Donc, moi, je pense qu'il faudra que nous puissions redéfinir notre propre développement, où nous voulons aller, qu'est-ce que nous voulons, et nous pourrons arriver.
Et certains affirment que pour développer le Congo, il faut aussi penser aux petites et moyennes entreprises.
Oui, mais c'est
pour encourager.
C'est ça qu'ils sont à notre portée. Mais alors, il faut les encadrer. Et encore une fois, moi je me dis, les petites et moyennes entreprises qui sont en train de réussir aujourd'hui, ce sont celles où il y a cette réflexion qui se fait. Les autres, je vais vous dire une chose, il y a une vaste actions qui se font sur le vocable activité génératrice de revenus.
De revenus, oui.
Mais en fait, si vous regardez, vous analysez, j'en ai évalué plusieurs. En fait, au lieu de générer des revenus, mais ça génère des soucis, des misères, des difficultés.
Comment ça?
Mais oui, parce qu'en fait, vous voyez des gens qui se disent, si nous faisons ceci, nous allons gagner de l'argent. Ils investissent, ils mettent tout, et puis au retour, il n'y a rien. Il n'y a rien, on ne récolte rien du tout. Vous avez par exemple, avec, on n'analyse même pas les activités, on n'analyse même pas ce que l'on veut faire, on se lance, et puis après, on est étonné de voir que les résultats ne suivent pas.
Par manque de planification.
Par manque de planification.
Donc, pour avoir, pour développer ce pays 50 ans après, il faut la planification stratégique.
Oui.
Il faut réfléchir d'avance. Il faut programmer ce que vous avez appelé la planification des mises en train.
Oui.
Et enfin, la planification opérationnelle.
Oui, oui.
Voilà, merci beaucoup, Anissé Mayra, consultant en développement organisationnel et directeur du GAD, groupe d'appui et d'accompagnement au développement durable. Merci et bonne fête du 50 ans.
Merci à vous, bonne fête aussi.